17h, 18h, les grands témoins avec Nasser Khétan sur Beurre FM.
Merci de nous retrouver sur les grands témoins. Aujourd'hui, Marianne Bessem, secrétaire générale de l'Office franco-québécois pour la jeunesse. Bonjour Marianne.
Bonjour Nasser.
Merci d'être là et bienvenue. Alors tout d'abord, avant de venir au projet de l'Office franco-québécois pour la jeunesse et puis à traiter l'actualité vraiment autour de la crise sanitaire, d'abord le Canada, le Québec, pour beaucoup de gens, pour beaucoup de jeunes en particulier, ça résonne comme un Eldorado. C'est là où on a envie d'aller. C'est là où on a envie d'aller étudier. C'est là où on a envie de travailler. Et en plus, il y a, je dirais même peut-être un appel d'air de Justin Trudeau, qui est le Premier ministre aujourd'hui, qui dit de toute façon, nous sommes tous des immigrés. La seule question qui se pose, c'est la date d'arrivée. Donc c'est vraiment, de façon un peu générique, c'est une réputation vraiment d'ouverture. Et moi, je voudrais savoir un petit peu qu'est-ce qu'il en est de cette politique, entre guillemets, d'accueil du monde entier, de la diversité, de l'immigration, etc. Peut-être déjà un petit peu ce cachet d'ouverture du Canada, du Québec, de façon générale.
Oui, alors c'est vrai que le Québec et le Canada ont tous les deux une image très très bonne, hein, très attractive auprès des Français en général et des jeunes Français en particulier. Il y a des départs annuels assez importants, que ce soit pour de s'installer ou au moins aller voir, rencontrer nos cousins.
Et je peux vous dire que c'est pas qu'en France, parce que connaissant bien le Maghreb, le Maroc, l'Algérie, la Tunisie, je peux vous dire que quand on sort à 5h du matin, à Alger ou à Rabat, etc., vous avez des queues interminables devant l'ambassade du Canada. Donc, il n'y a pas que la France.
En effet, et d'ailleurs, le Québec est très, très proactif pour aller dans les pays du Maghreb pour recruter, en fait, des jeunes professionnels. Alors, oui, beaucoup de gens ont l'impression que c'est un Eldorado. C'est un pays vraiment... Enfin, tous les deux, hein, la province du Québec et le Canada sont des territoires très, très importants, intéressant et très attractif, parce que c'est vrai que il y a une chaleur humaine, une facilité d'aller dans les rapports professionnels qui est un peu différente de celle de la France, et du coup ça donne vraiment cette envie d'aller un peu dans l'Amérique en français, hein, quand même
c'est
ça le rêve américain en français, et ça fonctionne très bien. Et puis l'accueil est extrêmement bien organisé, c'est vrai que la politique d'immigration vers le Québec et le Canada est très organisée, et puis il y a beaucoup de structures qui peuvent accueillir les gens. Après, ça reste un pays normal. Hein. Il y a aussi, il y a un climat quand même qui est pas toujours très très facile à supporter quand on est un peu méditerranéen. Et puis il y a aussi des différences culturelles qui sont importantes dans le cadre professionnel. C'est vrai qu'on parle la même langue, mais on ne pense pas forcément les rapports professionnels de la même façon. Et il y a des choses à découvrir sur place qui font que on se rend compte aussi là-bas qu'on est français ou d'une autre identité, et que on n'est pas que chez des frères, on est aussi chez des cousins plutôt.
Pour être un peu pragmatique, est-ce que c'est toujours d'actualité ces aides financières qu'on vous donne lorsque vous êtes un immigrant ou un étudiant par exemple? Je crois qu'il y a une certaine somme qui est allouée pour vous installer et pour vous aider, même des fois, à monter une entreprise, ou quand vous êtes étudiant, à payer un loyer, etc. Est-ce que c'est toujours d'actualité, ça?
Ça dépend des provinces, en fait. Donc, il y a, en fonction des provinces, chaque province peut faire ses programmes d'attractivité. En tout cas, il y a toujours des priorités aux gens qui parlent français, très souvent. Hein. Alors, évidemment, au Québec, hein, puisque au Québec, le français est la seule langue officielle, mais même dans d'autres provinces du Canada, il y a un programme spécifique pour l'immigration francophone, et donc c'est un atout. Pour avoir un permis de travail, il faut avoir un certain nombre de points, et le fait de parler français donne des points, puisque malheureusement la langue française décline un petit peu en termes de locuteurs dans le Canada hors Québec. Donc il faut se renseigner. Il y a toujours plein de d'acteurs, y compris en France, hein, qui aident à identifier. Après, moi, on va parler de l'Office franco-québécois pour la jeunesse,
Mais deux petites questions préalables qui vont s'inspirer de ce que vous venez de dire à l'instant. La première, vous avez parlé tout de suite. On va détailler l'histoire tout à l'heure. Les provinces du Canada et du Québec. Vous faites une différence. Vous avez à l'instant dit la province du Canada et du Québec.
Ah oui, bah parce que alors les liens franco-québécois sont très forts. Il y a des liens franco-canadiens avec le fédéral, avec Ottawa évidemment, mais il y a des liens très très forts avec la province du Québec historiquement, mais encore aujourd'hui évidemment. Et nous, l'OFQG, on est une de ces incarnations de ce lien très fort. C'est vrai que la France a voulu, c'est le général de Gaulle qui a voulu reconnaître la province du Québec comme
vive le Québec libre.
Voilà, vive le Québec libre. Et c'était une façon, quelque part, de donner à ceux qu'on appelait à l'époque les Canadiens français une légitimité pour s'internationaliser. Donc aujourd'hui, à Paris, il y a l'ambassade du Canada, évidemment, comme toutes les ambassades. Et puis il y a aussi la délégation générale du Québec, qui a le rang de représentation diplomatique, même si le Québec n'est pas un État souverain en tant que tel. Et c'est la seule...
Alors, deuxième petite question, qui se base, enfin, qui part d'une de vos réflexions... Vous parlez des langues, langue anglaise, langue française. Moi, je suis allé au Canada plusieurs fois, et je me suis rendu compte que même là, on parlait français, ou on parlait quelque chose qui ressemblait de près ou de loin à du français, qui se dénommait francophonie, j'ai remarqué quand même que la façon de se comporter, je veux dire entre guillemets, mentalement, c'était très anglophone. C'est-à-dire que même quand les gens parlaient un français ou quelque chose apparenté au français, ils avaient... D'abord un mode de vie, un comportement et presque des réflexes anglophones. Vous validez ça ?
Ah oui, je vous rejoins tout à fait. C'est vrai que, comme je le disais, on parle la même langue ou une langue très proche, mais on est américain. Culturellement, on est très différent. Oui, ils sont intégrés dans l'espace nord-américain. Donc c'est vrai qu'on retrouve beaucoup de références nord-américaines et puis un comportement, y compris professionnel d'ailleurs, très nord-américain, qui peut surprendre, hein, qui surprend beaucoup de jeunes Français d'ailleurs. Qui ont l'impression que bon bah voilà ça va être la même chose. Bah non, c'est pas du tout la même chose.
Alors avant de revenir peut-être parce qu'on va faire un petit peu d'histoire parce que bon, il y a quand même eu des gens qui étaient là avant qu'on a exterminé, colonisé, etc. On va parler des Indiens de ce qu'on appelle les Premières Nations. D'abord peut-être parler de l'Office franco-québécois. Qu'est-ce que l'Office franco-québécois ? En quelle année il a été créé ? Pourquoi il a été créé ? Et quelles sont ses actions, ses projets ?
Alors, l'Office franco-québécois pour la jeunesse, donc son petit nom c'est l'OFQJ, a été créé au retour de ce fameux voyage du général de Gaulle, Vive le Québec libre, à la demande du général de Gaulle, comme il avait créé l'Office franco-allemand pour la jeunesse 5 ans avant, pour rapprocher les jeunesses françaises et allemandes dans un contexte très différent évidemment. Il a souhaité que les jeunesses françaises et québécoises puissent se rencontrer de façon régulière à travers cet office bilatéral. Donc création en 1968, on a fêté les 53 ans cette année. Et donc nous sommes un organisme installé à la fois à Paris et à Montréal qui accompagne la mobilité des jeunes adultes français et québécois dans les deux sens. Le seul critère vraiment fixe, c'est d'avoir entre 18 et 35 ans révolus. Et après, quel que soit le profil, on a des programmes d'accompagnement qui peuvent être courts, longs, mais c'est toujours de la mobilité temporaire pour rencontrer des jeunes Québécois, pour les Français que nous accompagnons à partir de Paris, et revenir avec un parcours enrichi, des nouvelles compétences professionnelles, des nouvelles compétences sociales.
Donc universitaires, des diplômes, des échanges entre les universités, des créations d'emplois, des facilités de construire en fait ses itinéraires et sa carrière professionnelle.
Exactement. C'est surtout sur l'aspect professionnel, c'est-à-dire que tout ce qui est échange universitaire aujourd'hui est très très bien structuré entre la France et le Québec. Donc en général, les universités n'ont pas besoin de nous. Par contre, on accompagne tout ce qui peut être des stages de professionnalisation, que ce soit pour des étudiants, pour des demandeurs d'emploi. On a un accord unique avec Pôle emploi pour maintenir les allocations chômage des jeunes qui souhaitent partir en stage avec nous. Ça peut être des volontariats, hein, des services civiques pour aller s'engager pour la communauté outre-Atlantique. Ça peut être aussi, par exemple, pour des jeunes entrepreneurs, des délégations, des missions commerciales pour pouvoir aller voir comment ça se passe, commencer à s'internationaliser. Le Québec, c'est la porte pour tous ces jeunes entrepreneurs ou ces jeunes professionnels ou ces jeunes artistes. On accompagne aussi beaucoup de jeunes artistes, quel que soit le secteur artistique.
Des résidences d'artistes,
musique, théâtre, cinéma, il y a vraiment de tout. Et pour tous ces jeunes-là, le Québec, c'est une porte d'entrée vers l'internationalisation de leur parcours. Et donc après, quand ils reviennent, ils ont une palette plus large de choses à faire valoir.
Et parlant d'internationalisation, c'est aussi beaucoup le Québec est à l'avant-garde, en tout cas, de la lutte contre le réchauffement climatique et pour l'environnement. Et les jeunes, il y a beaucoup d'ONG et donc il y a beaucoup d'ONG qui s'investissent dans la défense de l'environnement. Et ça aussi, dans cette mobilité-là, l'Office franco-québécois pour la jeunesse est actif.
Oui, alors on est actif sur tous les secteurs, on va dire citoyenneté. Hein, on a beaucoup de programmes. Ça peut être, par exemple, évidemment, sur l'égalité femmes-hommes, sur la lutte contre les discriminations, mais aussi, bien sûr, sur la lutte contre les changements climatiques. Donc il y a des programmes d'échange réguliers. Et on réfléchit aussi, d'ailleurs, à comment améliorer notre empreinte carbone, parce qu'on est quand même extrêmement dépendant du transport aérien. On n'a pas trouvé encore de meilleurs moyens pour aller au Québec que de prendre l'avion. Et donc, on réfléchit à comment est-ce qu'on pourrait améliorer un peu notre empreinte carbone en tant qu'office de mobilité. Et la crise sanitaire, finalement, quelque part nous aide à réfléchir à ça, puisque tous les échanges numériques se développent et que je pense qu'on ne ressortira pas tout à fait pareil, hein, comme beaucoup de,
ouais,
comme beaucoup de secteurs, mais on ne ressortira pas tout à fait pareil de cette crise, parce que des déplacements très courts, finalement, maintenant, on va toujours se poser la question de l'opportunité de les faire, ou est-ce qu'on peut les faire différemment. Et les jeunes, en plus, sont un public évidemment très adaptable à changer leurs pratiques et à découvrir des choses à distance.
Vous êtes dans Les Grands Témoins avec Marianne Bessem, secrétaire générale de l'Office franco-québécois pour la jeunesse. On se retrouve dans un instant.
Les Grands Témoins revient dans un instant. 17h, 18h, Les Grands Témoins avec Nasser Khétan sur Beurre FM.
Avec Marianne Bessem, secrétaire générale de l'Office franco-québécois pour la jeunesse. Marianne, Québec, ça veut dire quoi?
Ça veut dire... c'est une très bonne question, Nasser. Oh la colle.
Alors, je vais vous aider. Ça veut dire là où le fleuve se rétrécit.
Vous avez raison.
Et
vous avez raison. Alors là, vous m'avez pris au...
C'est dans le langage indien.
Oui.
Et c'est en algonquin. Et Canada, ça veut dire quoi? Pareil, ça veut dire Canada et ça vient du Huron. Alors pourquoi je vous dis ça? Parce que ce sont des mots, ce qu'on appelle des anciens, et cette région, étant allé personnellement, encore une fois, je le répète, au Canada, j'ai été amené à rencontrer aujourd'hui les Indiens d'aujourd'hui qui vivent dans des réserves, qui sont touchés par le chômage, qui sont dans des situations très précaires. Cette histoire du Canada, elle s'est faite quand même dans la douleur. Donc il y a eu des colonisations, il y a eu à la fois des colonisations. Les premiers peuples étaient majoritairement ce qu'on appelle les Indiens Iroquois et Algonquins. Hein, ce sont ces premiers, ces anciens qui viennent un peu d'Asie après les premières glaciations. Et les Français, quand ils ont commencé à découvrir ce nouveau monde, se sont reposés sur une tribu contre l'autre. C'est tous les pays colonisés, c'est comme ça. Hein. Le colon arrive, il se repose toujours sur des autochtones contre d'autres autochtones. Comment la société canadienne vit à la fois cette colonisation, enfin cette ancienne colonisation, ce que beaucoup appellent une extermination, comment ça se passe dans la société canadienne, et notamment au niveau de l'éducation nationale, au niveau des jeunes canadiens qui savent qu'ils sont dans un pays, mais que quelque part ils sont dans une terre qui a été colonisée.
Mais je pense qu'il y a vraiment une prise de conscience qui date d'une grosse vingtaine d'années maintenant, peut-être même un petit peu plus. C'est vrai qu'il y a eu une invisibilité, en fait, pendant longtemps, hein, des populations qu'on appelle autochtones, hein, c'est le terme consacré, et qui était pas vraiment bien prise en compte. Mais de plus en plus, il y a vraiment beaucoup de programmes d'intégration, de lutte contre les discriminations. Et tout ça est soutenu, alors, notamment au niveau québécois, il y a des fonds particuliers pour ça. Et il y a une espèce de forme de volonté de réparation, hein, quand même assez forte.
Alors, par exemple, je crois qu'il y a quelque chose de très fort, c'est que lorsqu'on est issu de ces peuples, on a le droit de chasse sur l'ensemble du territoire. On n'a pas besoin de permis.
Oui, c'est probable. Mais...
Le droit de chasse et de pêche, d'ailleurs.
Oui, après, ça, tout dépend de la législation qui tourne autour des réserves, parce que c'est vrai qu'entre les gens qui vivent aujourd'hui encore dans les réserves, et puis ceux qui sont d'ores et déjà dans les villes, et qui malheureusement sont surreprésentés, en fait, hein, dans les populations sans domicile, ou en tout cas très précaires, évidemment que le droit de chasse et de pêche, pour eux, est un peu virtuel et n'a pas forcément grand sens, quoi. Et cela, on...
Mais moralement, c'est-à-dire qu'ils sont chez eux partout.
Voilà, ils sont chez eux partout.
C'est ça, en fait.
Exactement.
C'est l'ordre du symbolique.
Et on le voit notamment dans la littérature québécoise, hein, en français. Il y a pas mal d'œuvres maintenant autour de ces questions de prise de conscience, de réparation et de retour aux sources aussi sur ces langues qui ont disparu.
De protection de leur terre, parce qu'on a vu des grandes manifestations sur des chantiers économiques où ils se sont mobilisés pour dire attention, c'est notre terre, on ne va pas vous en fasser n'importe quoi.
Voilà. Et c'est vrai que tout ça est porté aussi par un état d'esprit qui a un peu changé, hein, au niveau mondial aussi, hein, sur le maintien des cultures anciennes. Donc, globalement, il y a une prise de conscience, une volonté de réparation, mais comme dans beaucoup d'autres pays, le chemin est encore...
Et puis, de façon très pragmatique, il y a aussi l'autorisation de faire ce qu'on appelle des loteries nationales, parce qu'ils sont beaucoup au chômage, ça leur permet de redistribuer de l'argent. Alors que la loterie, c'est la prérogative de l'État en général. Mmh. Donc, il y a comme ça certaines soupapes, entre guillemets, où on leur donne un peu... voilà. Et alors, dans cette histoire, quand même, du Canada et du Québec, la grande chose, c'est l'affrontement entre l'Angleterre et la France. Je veux dire, c'est le Québec, en fait, vous êtes secrétaire général de l'Office franco-québécois pour la jeunesse, est issu d'une guerre et d'une douleur. C'est un accouchement douloureux. Les Français, on va rappeler aux auditeurs, étaient traités par les Anglais d'idolâtres, parce que eux étaient protestants et les autres étaient catholiques. Et puis, ils étaient longtemps aussi traités, il y a même des documents là-dessus, les Français étaient assimilés à une race inférieure. C'est dans des documents précis. Donc, cette histoire, comment elle se répercute aujourd'hui? Est-ce que c'est gommé ou est-ce qu'on a encore ces vieilles divisions? On va dans les accords entre, les États-Unis, le Canada est allié des États-Unis dans les grands chantiers, mais aussi de l'Europe. On voit le Premier ministre tunisien qui est toujours en train de faire les grands écarts entre les États-Unis et l'Europe. Comment cette histoire de guerre ancestrale entre la France, puisque le Canada c'était la Nouvelle France à l'époque, et puis finalement, je crois que c'est Louis XIV qui a cédé un peu tout ça à l'Angleterre. Comment ça se passe?
Bah, c'est assez ambigu. Alors, je voudrais pas froisser nos cousins québécois et canadiens, parce que c'est toujours ça demeure quand même des sujets un peu sensibles, et l'abandon de la France face à l'Angleterre pour la terre québécoise notamment, ça reste chez certains un sujet douloureux, un sujet sensible, et autant il peut y avoir entre la France et le Québec, il y a beaucoup d'amitié, il y a beaucoup d'amour aussi, mais il y a aussi parfois des rancœurs qui ressortent quand on discute avec des Québécois ou des Canadiens. Mais aujourd'hui, il y a une forme d'équilibre. Alors, le Québec, notamment, je vais parler de ce que je connais le mieux dans la Fédération canadienne, le Québec, quand il a fait sa révolution tranquille dans les années 60, finalement a complètement inversé la vapeur de l'image qu'il avait dans la Fédération canadienne, où justement était resté un peu cette image de ceux qui parlent français, ils ont un statut un peu différent, un peu moins valorisé que ceux qui parlent anglais. Et cette révolution tranquille qui a été faite très rapidement avec une forme d'émancipation très forte, elle a placé aujourd'hui le Québec comme locomotive économique, le Québec est vraiment aujourd'hui à la pointe de la Fédération canadienne. Donc ça fait partie des équilibres toujours un petit peu sensibles entre nos cousins et nous et les États-Unis, la culture anglophone. Mais ils sont très pragmatiques et ils utilisent leurs diverses identités à toujours bon escient. Donc là-dessus, l'histoire a son poids, mais aujourd'hui, heureusement, l'amitié fait passer tout ça.
Alors, l'Office franco-québécois est très impliqué dans la francophonie. On est en train de célébrer le 50e anniversaire, enfin le 51e anniversaire, parce que c'est pour cause de Covid, ça sera 2021. Et l'Office franco-québécois pour la jeunesse est impliqué dans la francophonie. Et je crois que vous avez aussi, vous avez envie de revenir, entre guillemets, en France. C'est-à-dire qu'il y a, cette idée de renouer, de retisser des liens avec la France.
Alors, oui, parce que, tout simplement, France-Québec, jeunesse France-Québec, l'ADN, c'est la francophonie, hein, c'est le fait de parler français. La culture est différente, mais vraiment ce qui nous rassemble, c'est ça. Et donc, ça fait 53 ans qu'on existe. Pendant 30 ans, on a fait des programmes purement franco-québécois. Et depuis une vingtaine d'années, on associe aussi des jeunes d'autres pays francophones à nos programmes. Et on organise notamment assez fréquemment maintenant des grandes rencontres en France avec des jeunes québécois qu'on fait venir, mais évidemment, des jeunes Belges, des jeunes Suisses, mais aussi, évidemment, des jeunes Tunisiens, des jeunes Marocains, Haïtiens, Vietnamiens, Malgaches, Ivoiriens, de toute la francophonie, autour de thèmes mobilisateurs qui vont leur ouvrir des portes ensuite dans leur parcours. Et pour leur permettre de saisir les opportunités que la francophonie donne. C'est-à-dire que, par exemple, on a organisé, il y a 2 ans, les premières rencontres francophones de l'innovation sociale. Comment est-ce qu'on imagine des solutions à des problèmes sociétaux, sociaux qui n'ont pas été résolus, des nouvelles solutions? Et la jeunesse a plein d'idées là-dessus. Et en fonction des problèmes qui sont identifiés, et ben ces jeunes-là se sont rencontrés pendant 3 jours à Paris. Ils ont découvert un peu l'écosystème d'innovation sociale en Île-de-France et en France. Et puis, ben, surtout, ils ont travaillé entre eux pour monter des projets et créer des ponts entre eux. Il y a un projet, par exemple, franco-béninois qui s'est monté entre la Tunisie et le Québec. Voilà, à leur échelle, ils créent des ponts, ils créent des projets. Et la francophonie n'est pas seulement une idée, parce que ça n'a pas d'intérêt si ça reste une idée. Mais par contre, c'est un espace d'opportunité et de création de richesse aussi pour eux.
D'ailleurs, c'était un peu le sens du discours du président de la République Emmanuel Macron sur la francophonie, où il avait mis en avant un triptyque qui était la société civile, la multilatéralité et le multilinguisme. Et donc, ça veut dire que l'Office franco-québécois pour la jeunesse est complètement dans ce triptyque. Et là-dessus, vous voulez avancer notamment en direction de tous ces pays où la langue française n'est pas spécialement la langue principale, mais où il y a une francophonie de cœur, c'est ça ?
Tout à fait, parce qu'on s'aperçoit que... Alors, on s'aperçoit notamment que finalement la francophonie, déjà en France, elle est pas forcément très très portée au niveau de la société civile, mais surtout quand on fait des rencontres entre jeunes francophones à l'échelle internationale, ceux qui sont les moins motivés par l'idée de la francophonie, souvent ce sont les jeunes français. Et c'est un peu dommage parce que ce sont les seuls finalement qui ne sont pas dans un contexte multilingue. Et donc, pardon. De pouvoir rencontrer des jeunes qui sont dans des contextes plurilingues, ça donne d'autres visions. Et les pays, notamment du Maghreb, par exemple, aujourd'hui ont des très forts liens avec le Québec, très souvent. Il y a des circulations de jeunes qui se font beaucoup, dans les deux sens d'ailleurs. Et nous, ça nous semble vraiment important de pouvoir ouvrir le plus largement possible nos programmes pour permettre les opportunités professionnelles pour ces jeunes-là. Alors, on reste franco-québécois, mais on ouvre de plus en plus d'opportunités pour des jeunes d'autres pays francophones.
On se retrouve dans un instant.
Les grands témoins reviennent dans un instant. 17h, 18h, les grands témoins avec Nasser Khétan sur Beurre FM.
Marianne Bessem, je suis agréablement surpris parce que depuis le début de cette émission, vous utilisez un mot, peut-être je ne sais pas combien de fois, qui surprend dans ce contexte de morosité, de repli sur soi, etc. Vous avez employé le mot ouverture et ouvrir. Donc c'est incroyable et ça veut dire que c'est l'Office franco-québécois, c'est d'abord l'ouverture, c'est d'abord l'accueil, c'est d'abord la main tendue, d'abord la mobilité et c'est vraiment impressionnant parce que c'est le mot depuis le début de l'émission dans votre bouche qui apparaît le plus fréquemment. C'est l'ADN de l'Office franco-québécois pour la jeunesse.
Alors exactement et ça vous me fait très plaisir en me disant que je dis beaucoup parce que je ne m'en suis même pas rendu compte donc c'est que je l'ai vraiment intégré. Oui, c'est les opportunités l'ouverture, la découverte, l'apprentissage, on pourrait en trouver encore plein d'autres. En tout cas, je vous assure que se lever le matin pour aider les jeunes à avoir des projets et à les concrétiser, c'est vraiment pas compliqué. Et on voit toujours des témoignages, on a toujours des témoignages de jeunes dont le passage à l'OFQJ a changé la vie quelque part. Et si vous me permettez, je crois que vous-même vous avez à un moment été participant à nos programmes bien il sûr. Y a très longtemps, si vous me permettez de le dire.
Bien sûr, à l'Assemblée mondiale des radios communautaires, bien sûr.
Ouais. Voilà, donc et tout ça, c'est depuis 50 ans. On a fêté nos 50 ans en 2018. On a essayé de retrouver beaucoup d'anciens. On n'a pas retrouvé tout le monde, évidemment. On en est à plus de 160 000 depuis 1968. Et pour beaucoup, ça a été une étape dans leur parcours de vie, et après leur parcours a changé. Donc c'est ça, c'est l'ouverture. Alors évidemment, en ce moment, c'est un peu compliqué.
Ah, mais justement, on parle de ce moment. Vous n'avez pas du tout une étude défaitiste devant le coronavirus, et vous dites face à tout ça. On a un petit peu des replis sur soi. On a des gens qui sont un peu en situation de retrait. Vous dites, chiche, on va développer les mobilités, développer la mobilité des jeunes en particulier.
Alors, il se trouve que nos programmes sont à l'arrêt depuis un an pile, depuis le mars de l'année dernière, parce que les recommandations, on est sous l'égide du gouvernement français, notre président est le ministre de la Jeunesse, les recommandations évidemment des deux gouvernements français, québécois et canadiens, aussi des trois gouvernements, sont d'éviter la mobilité. Mais pour autant, il y a toujours autant de jeunes qui ont envie de découvrir des deux côtés. Et donc, on a monté des échanges numériques. On a monté des stages en télétravail avec Pôle emploi. On essaye de rebondir. Mais de toute façon, dès que les frontières vont rouvrir, ce sont les jeunes qui vont partir en premier. Ce sont les jeunes qui n'auront pas peur et qui vont partir et reprendre l'avion. Donc, c'est cette tranche d'âge-là qui va relancer la rencontre entre la France et le Québec et entre avec d'autres pays.
Et pour ces jeunes, sauver leur peau, c'est aussi sauver la planète. Et pour sauver la planète, vous avez aussi des projets dans le développement durable.
Tout à fait. Alors, on réfléchit effectivement à comment est-ce qu'on va les aider à développer en franco-québécois et à l'échelle francophone des projets pour mobiliser aussi d'autres tranches d'âge, parce que les jeunes finalement sont très souvent ceux qui portent cette vision. On dit souvent qu'ils sont l'avenir, mais ils sont surtout le présent, et c'est d'ores et déjà aujourd'hui qu'ils peuvent agir et qu'ils ont envie d'agir pour que leur quotidien demain soit moins pire que ce qu'on nous prédit. Donc il y en a beaucoup qui se mobilisent déjà et qui font vivre cette thématique-là. Voilà. Donc on va lancer des programmes plus importants sur le développement durable, et toujours dans ces thématiques d'innovation sociale que j'évoquais tout à l'heure, on va aussi poursuivre ces échanges. Moi, j'aimerais vraiment bien que on puisse être un laboratoire d'idées sur ces questions-là pour la jeunesse. On l'a déjà été beaucoup sur les questions d'entrepreneuriat. J'aimerais vraiment que la question du développement durable puisse être un thème mobilisateur, et ça prend très bien.
Et alors, un point de convergence entre ces mobilités et puis la francophonie dont on parlait à l'instant, vous associez à cette idée emblématique d'ambassadeur de la francophonie initiée par le Conseil économique et social français et environnemental. Donc, vous allez vous-même aussi proposer des ambassadeurs ?
Tout à fait. On est en train de le faire. Ça nous semble une idée extrêmement intéressante, parce que quelque part, on a fait des ambassadeurs de la francophonie un peu comme Monsieur Jourdain. C'est-à-dire que de toute façon, d'ores et déjà, quand on envoie des jeunes volontaires en service civique au Québec, mais aussi ailleurs au Canada ou en Amérique latine, puisqu'on le fait très régulièrement, ce sont toujours des jeunes qui vont dans des terrains francophones, auprès des alliances françaises, auprès des écoles françaises, et ils partent, on leur donne une formation au départ sur le fait qu'ils portent cette identité de francophone. Parce que très souvent en France, ils ne se rendent pas compte qu'ils ont une identité francophone, mais c'est quand ils vont être confrontés, entre guillemets, à des cultures non francophones qu'ils vont s'en rendre compte. Et quelque part, quelle que soit la mission qu'ils ont à faire sur place, ils peuvent aussi défendre un petit peu cette identité de francophone. Quand je dis défendre, je veux pas dire par là repli sur soi. C'est vraiment pas ça. Ce n'est vraiment pas une identité contre une autre. C'est plutôt au contraire que chacun puisse prendre en compte le fait qu'il a plusieurs identités, qu'il porte plusieurs langues, sa langue maternelle mais d'autres, et que tout ça contribue à enrichir aussi une diversité de pensée et de conception du monde, tout simplement.
Alors, vous avez rappelé tout à l'heure que l'Office franco-québécois, c'est quand même un organisme qui dépend un peu de l'État, c'est normal. Mais en même temps, dans le développement de vos actions, vous êtes très horizontal, c'est-à-dire que vous travaillez avec un certain nombre d'associations, d'ONG. Est-ce que vous pouvez nous donner quelques indications sur ces associations, ces ONG, ces structures de la société civile? Est-ce qu'il y a des gens plus particulièrement avec lesquels vous travaillez en France, en Amérique, en Asie ou en Afrique ou en Afrique du Nord? Est-ce qu'il y en a quelques-unes sur lesquelles vous avez envie de revenir?
Alors, moi, j'ai coutume de dire que à l'OFQJ, pour revenir sur cette idée de laboratoire que j'évoquais tout à l'heure, on est un petit peu à la croisée des chemins entre ce que les jeunes ont envie de travailler, ce qu'ils ont envie de développer, et puis évidemment ce que les autorités politiques souhaitent mettre en place. Et donc nous, on essaye de faire remonter aux politiques des demandes des jeunes qu'on sent sur des thématiques de travail, et puis aussi évidemment de mettre en musique des orientations politiques. Alors, on travaille avec beaucoup d'acteurs, qu'ils soient associatifs, ONG ou organisations internationales. On travaille évidemment beaucoup avec l'Organisation internationale de la francophonie, l'Agence universitaire de la francophonie, d'autres offices de mobilité, notamment le Bureau international jeunesse de Bruxelles, l'OFQJ Québec, évidemment, côté québécois, on est organisés ensemble. Et puis, beaucoup d'associations de jeunes. Et dans notre conseil d'administration, on a deux associations de jeunes et de jeunesse, notamment, qui sont là pour nous éclairer aussi, nous aiguiller. On a depuis 53 ans un réseau extrêmement développé de partenaires qui nous font remonter des projets et tout ça se construit petit à petit. Voilà.
Et justement, juste un mot. Est-ce que vous avez entre guillemets pas une indépendance, mais une autonomie d'action? Est-ce que vous pouvez faire des propositions aux politiques? C'est-à-dire que vous n'êtes pas un organisme diplomatique. Vous êtes là, vous l'avez rappelé à l'instant, dans une horizontalité. Est-ce que vous êtes capable de faire des propositions aux politiques qui après peut s'en servir pour mener des actions?
Oui, tout à fait. D'ailleurs, on n'est pas un organisme diplomatique, effectivement, vous avez raison. On est un organisme international. C'est-à-dire que, le Québec et la France, ils sont à parité. Et donc, mon homologue secrétaire général à Montréal et moi-même sommes nommés par les deux gouvernements, mais, nous avons une autonomie d'action dans les limites de ce que nous donne notre conseil d'administration, évidemment. Et donc, oui, on est en capacité de faire des propositions, on est en capacité de faire remonter des choses. On a très régulièrement organisé des rencontres de jeunes à l'échelle de la francophonie où les jeunes font des recommandations et sont très preneurs ensuite de pouvoir les présenter directement. On l'a fait notamment sur la question de l'entrepreneuriat à l'échelle de la francophonie. On a organisé une très grande rencontre des jeunes entrepreneurs francophones à Strasbourg il y a 2 ans. 170 jeunes de 21 nationalités francophones qui ont capitalisé et écrit en fait des recommandations au-delà du fait qu'ils ont créé des projets ensemble. Et ça, on aimerait bien notamment le présenter, pourquoi pas, aux autorités politiques dans le cadre du sommet de la francophonie à la fin de l'année. Et puis, on l'a fait aussi, par exemple, sur le Forum des femmes francophones, l'édition d'un livre blanc, sur de l'agriculture urbaine. On le fait sur beaucoup, beaucoup de thèmes où, en fait, nous, notre compétence, c'est de mettre les jeunes ensemble, de les aider à travailler et créer des projets et émettre, en fait, ensuite, ce dont ils auraient besoin pour être aidés dans ces projets. Et ça, on le fait remonter aux autorités politiques.
En tout cas, l'Office franco-québécois pour la jeunesse, moi, je n'ai jamais entendu un mot sur le mot ingérence ou le mot jamais. C'est une réputation, mais vraiment de partenariat, d'ouverture, y compris dans les pays qu'on connaît bien. Et ça, c'est tout à votre honneur. Et comment vous vivez aujourd'hui, comment l'Office franco-québécois vit aujourd'hui quand même une espèce de retour des populismes, des xénophobies, des extrémismes, que ce soit en Europe ou que ce soit dans les pays du Sud. Comment l'Office franco-québécois vit ça? Est-ce que ça le touche? Est-ce qu'il a des programmes pour répondre à ça?
Alors, évidemment, ça nous touche comme tous les acteurs sociétaux,
déjà,
on va dire.
Déjà, ça doit vous scandaliser, déjà.
Oui, évidemment. Mais Il me semble que depuis le début, on fait partie de la solution. C'est-à-dire que très modestement,
ça, c'est beau comme expression.
Voilà, c'est-à-dire que on est un organisme qui permet de déconstruire les clichés et d'aller voir vraiment comment ça se passe ailleurs. Donc forcément, on en revient transformé et on n'a plus la même vision étriquée quand on revient. Donc c'est voilà, moi je m'engage pour ça tous les jours et c'est très très gratifiant.
Voilà. Marianne Bessem, en tout cas, merci beaucoup d'être venue dans Les Grands Témoins.
Merci à vous, Nathan. Hein,
et je retiendrai cette phrase, finalement, j'étais en train de l'écrire. Depuis le début, nous faisons partie de la solution. Merci beaucoup, Marianne Bessem.
Merci.
Retrouvez Les Grands Témoins tous les dimanches de 17h à 18h et en podcast sur beurrefm.net et l'appli Beurre FM.